Cube Radio.
Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Merci de nous avoir choisis ce matin. Autre grande journée dans le monde de l'actualité. Hein, toutes sortes de choses qui déboulent. Aujourd'hui, à suivre, point de presse, 11h, le trio santé qui se réunit. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu, hein, celle-là, le trio santé, hein, ce terme-là. Oui, oui, ça nous rappelle que la COVID n'est pas disparue et qu'avec l'approche de l'automne, ben, on s'inquiète d'une remontée des cas de COVID-19. Donc, ce sera le directeur national de santé publique, Luc Boileau, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le premier ministre, François Legault, réunis tous les trois pour ce point de presse. Donc, je le rappelle, à 11h, ça suit le sondage DG, hein, qui a été dévoilé une douzaine de jours à peu près, qui disait que 53% des adultes québécois prévoient aller chercher une dose de rappel cet automne. 38% des répondants, eux, qui disent que c'est improbable dans leur cas. Donc, c'est quand même un peu plus de la moitié de la population qui veut se faire vacciner une dose de rappel. C'est important pour continuer de lutter contre le virus. Surtout qu'hier, on en discutait à l'émission, il y a un nouveau vaccin dit bivalent qui est sorti du côté de Moderna. Toujours pas approuvé ici au Canada, mais ça cible également la souche Omicron, donc le variant Omicron. De la souche de la COVID-19. Donc, c'est assez intéressant, merci, comme nouvel outil pour pouvoir s'attaquer à tout ça. Point de presse, donc, à 11h. Sinon, on apprend dans le journal aujourd'hui que le retour des épreuves ministérielles en juin a donné beaucoup de fil à retordre là, aux élèves du secondaire qui sont de plus en plus nombreux à s'inscrire à des cours d'été et aux examens de reprise dans plusieurs centres de services scolaires. On se rappellera, les épreuves ministérielles avaient été temporairement suspendues pendant la COVID-19. C'était difficile là, de gérer tout ça à distance, comme ça l'est souvent. Il y a beaucoup d'examens qui ont été faits à distance avec des méthodes un peu broche à foin. On peut qualifier ça comme ça là, dans les dernières années. Et là, on voulait ramener donc ces examens ministériels-là, mais ça passe pas toujours, et c'est pas toujours tout le monde qui passe non plus ces épreuves. Donc, de plus en plus nombreux, nos élèves, à s'inscrire à ces cours de rattrapage. On dit entre autres qu'à l'échelle de la province, le nombre de reprises à l'examen de français est en augmentation. Ça dit rien qui vaille quand même pour la préservation de notre langue. Sinon, rare bonne nouvelle économique ce matin, hein, je dis rare, mais vous allez voir, c'est l'inflation qui a augmenté de 7,6% au mois de juillet 2022. Vous allez dire, ben, c'est beaucoup ça, 7,6%. Oui, mais en juin, c'était 8,1% d'inflation. Donc, cette hausse inflationniste-là est en baisse de manière globale. Donc, ça pourrait indiquer un certain ralentissement quand même de ce côté-là. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être que les économistes ne se sont pas trompés cette fois-ci et que les mesures, là, les coûts de gouvernail qui ont été donnés, entre autres au niveau du taux directeur, sont en train de prendre effet. Mais oui, ça, c'est une bonne nouvelle. L'inflation, par contre, ça crée d'autres éléments là, à la fois problématiques et des fois un peu bénéfique, c'est ce qu'a constaté hier la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, qui faisait la révision du rapport préélectoral provincial. On a toujours un rapport comme ça qui est publié juste avant les élections pour que les divers partis politiques en lice puissent voir quel est l'état de la situation et faire leurs prévisions et leurs promesses électorales de manière plus éclairée. La vérificatrice générale du Québec est avec nous pour en parler. Madame Guylaine Leclerc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Moranville-Ouellet.
Tout d'abord, là, c'est un exercice que vous imposez là, chaque année de passer sur ce rapport préélectoral-là. Est-ce que vous avez fait le saut en voyant tout l'argent qu'on avait dans les coffres au Québec?
Ce qu'on fait, on fait cet exercice-là avant chacune des élections. Et la première fois qu'on l'a fait, c'était en 2018. Là, on est en 2022. On a de nouveau des élections. Alors, la loi nous oblige de faire un rapport sur le rapport préélectoral qui est préparé par le ministre des Finances. Et effectivement, il y a eu un grand saut entre la situation telle qu'elle était présentée en mars 2022, parce qu'en mars 2022, il y a eu un rapport, un budget qui a été préparé par le gouvernement. Mmh. Et dans ce budget-là, on prévoyait un déficit avant versement au Fonds des générations de 3 milliards de dollars. Et on arrive maintenant avec des prévisions de surplus avant versement au Fonds des générations de 1,7 milliard de dollars. Donc, on est passé d'un déficit important à un surplus important, donc à un écart de 4 milliards de dollars en quelques mois seulement. Alors, oui, c'est des sommes qui sont importantes, mais qui sont principalement dues par les revenus autonomes qui ont entré dans les coffres du gouvernement et principalement dues, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'inflation. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a inflation, bien naturellement, il y a augmentation de salaire, donc augmentation d'impôts des particuliers, ouais. Mais aussi augmentation de la taxe à la consommation.
Grossièrement,
les sommes viennent majoritairement des entrées d'argent qui sont supérieures dans les coffres de l'État.
Ouais, donc on résume, les produits coûtent de plus en plus cher et comme ben c'est un pourcentage hein, qui est récolté comme ça, à la fois sur l'impôt, à la fois sur la taxe à la consommation, on engrange plus d'argent. Règle générale, là, ces revenus-là se font quand même là plus modestes, si on veut. Là, il y a eu toutes sortes de prévisions également du côté du gouvernement. On parle entre autres là de prévisions par rapport ben à cette récession économique qui plane, hein, l'épée de Damoclès un peu au-dessus de nos têtes. Est-ce que les prédictions du ministre Girard, selon vous, sont exactes ou sont plausibles dans cette situation-là, dans cette optique-là?
La loi nous demande de nous prononcer sur la plausibilité. Donc, c'est vraiment le terme qu'on utilise continuellement, à savoir, est-ce que le rapport préélectoral est plausible? J'aimerais juste apporter une précision aussi, c'est que l'inflation, oui, ça augmente les rentrées d'argent dans les coffres de l'État, mais ça, c'est relativement à court terme, hein, parce qu'à moyen et long terme, ça peut engendrer une diminution de la situation économique. Ouais. Donc, oui, dans votre question, est-ce qu'on en a tenu compte suffisamment? À notre avis, il aurait été utile que le gouvernement, dans son rapport préélectoral, présente des scénarios alternatifs, minimalement un, qui aurait présenté quelle aurait été la situation du Québec, principalement au niveau de ses surplus et déficits, s'il y avait eu récession.
Est-ce que en cas de récession, du moins dans l'éventualité des scénarios plus pessimistes, est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait se garder un coussin au Québec? Est-ce qu'on devrait avoir un petit bas de laine au cas où ça aille mal dans les prochains mois, les prochaines années?
Bien, les prévisions prévoient déjà des marges de prudence. Pour ce qui est de 2022-2023, c'est minimal, c'est 200 millions parce que l'année est assez avancée. Donc, s'il y avait une récession, l'impact ne serait pas à court terme. Par contre, à compter de 23-24, le gouvernement s'est pris une marge de prudence à chacune des années d'environ 2 milliards de dollars. C'est important comme marge de prudence. Si on compare avec 2018, c'était beaucoup moindre. Alors, pour nous, c'est sain qu'ils aient pris une marge de prudence de cette ampleur-là. Par contre, est-ce que la marge de prudence serait suffisante pour couvrir les besoins d'une récession? Mais ça, c'est pas acquis parce qu'on le sait, s'il y a une récession, elle va être complètement différente de celle qu'on a vécue dans le passé, ne serait-ce le fait que bon, on est pratiquement en plein emploi, qu'il y a une inflation qui est forte, qu'on a une guerre en Ukraine actuellement, qu'on a des défis au niveau de l'approvisionnement au sein des entreprises. Alors, ce serait une récession qui serait tout à fait différente de ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, l'évaluation de la provision qui serait nécessaire serait vraiment, c'est aléatoire, mais le gouvernement a fait le bon choix de décider de prendre 2 milliards de dollars à compter de 2023-24 comme provision.
Je suis content que vous énonciez la pénurie de main-d'œuvre qui est un enjeu qui se multiplie. Là, nous, ici, dans les médias, chaque fois qu'on parle à une entreprise, une entité, peu importe, il y a toujours au Québec des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on en tient assez compte, selon vous, dans les prévisions du gouvernement?
Bien, ça aussi, c'est un enjeu parce qu'on sait que si on ne réussit pas à combler tous les postes qu'on prévoit combler, bien, les dépenses ne seront, on ne pourra pas les dépenser. Donc, par exemple, au niveau de la santé et services sociaux, on prévoit l'embauche de 10 000 nouveaux travailleurs en santé. Bien, si on ne réussit pas à les embaucher, bien, il est possible qu'on ne dépense pas les sommes qui sont prévues dans pour santé et services sociaux. Même chose au niveau de certaines infrastructures dans le portefeuille des transports où on a prévu des sommes importantes pour le transport collectif, mais on sait que c'est pas le gouvernement qui est maître d'œuvre du transport collectif. Il donne des subventions pour que d'autres sociétés mettent en place, construisent, par exemple, REM de l'Est ou tramway et tout ça. Mais on sait que des fois, on est tributaire de certains litiges, de certaines normes environnementales, de fournisseurs qui sont pas nécessairement disponibles. Alors, il peut y avoir des délais. Donc, il se peut que certaines dépenses ne soient pas réalisées. Donc, s'il n'y a pas récession et si on ne réussit pas à embaucher tout le monde et faire les projets qu'on prévoit, bien, il y a des possibilités qu'on ait des surplus supplémentaires. On est dans une époque très, très volatile au niveau économique. C'est extrêmement difficile de faire des prévisions, mais le travail qui a été fait par le ministère des Finances, en collaboration, je vous dirais, avec nos équipes, parce que nos équipes sont toujours en arrière pour s'assurer que les hypothèses sont plausibles, mais c'est le meilleur scénario qu'on peut présenter actuellement, malgré la volatilité.
Oui, malgré la volatilité. Est-ce que dans ce contexte de volatilité-là, est-ce que ça, c'est sage de prendre des engagements, de remettre de l'argent dans les poches des Québécois, des Québécoises? Veux pas, là, entendons-nous, là, c'est une nouvelle promesse de la CAQ. Ça avait déjà été promis par le Parti libéral du Québec. Ça a été promis par le Parti conservateur également de faire des baisses d'impôts, entre autres. Est-ce que c'est sage, selon vous, de promettre ces baisses d'impôts-là au vu de la situation financière actuelle? Ou d'un autre côté, peut-être, ça peut être risqué vu qu'il y a une volatilité?
Ça, ce sera un choix à chacun des partis politiques. L'objectif de la loi qui a été présentée en 2015 était justement de s'assurer que tous les partis politiques aient l'information financière adéquate pour pouvoir prendre les décisions qu'ils veulent présenté dans leur plateforme électorale. Alors, ils ont, avec le rapport préélectoral pour lequel on a émis un rapport de certification, eh bien, chacun des partis politiques peut faire sa propre plateforme et à partir de là, bon, ben, pouvoir jouer avec avec les données qui y sont présentées. Donc, si on diminue les rentrées fiscales, ben, il faudra nécessairement identifier d'autres postes qui vont en subir certaines conséquences. Donc, ça pourrait être diminution de certaines dépenses ou un endettement supplémentaire. Mais tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée en économie.
Tout se transforme, oui, comme dit l'adage en science. Madame Leclerc, avant de vous laisser... Oui, excusez-moi. Madame Leclerc, avant de vous laisser, je ne sais pas si c'est une question qui se pose, mais est-ce que il y a des prochains projets dont vous pouvez nous parler, des prochains rapports qui sont dans les cartons? Est-ce qu'on doit est-ce qu'il y a un prochain exercice sur lequel vous vous mettez bientôt qu'on doit attendre avec impatience ici?
Oui, bien sûr. On dépose toujours minimalement deux fois par année des rapports d'audit de performance. J'ai pas en tête. Je sais que j'en ai un en éducation qui va être déposé en novembre sur. Je pense que c'est sur l'enseignement à distance. Mais j'en ai plusieurs autres qui vont être déposés au mois de novembre après les élections, dès que l'Assemblée nationale va être réouverte après les élections. Donc, on a plusieurs dossiers qui s'en viennent. Je vous invite à aller voir notre site Internet. Ils sont tous publiés. Puis, on en a d'autres qui vont être publiés au printemps. Alors, on a vraiment beaucoup de pain sur la planche actuellement.
L'enseignement à distance, ma foi, en novembre, je vais attendre ça avec impatience parce que je vous avoue, je pense que c'est un dossier sur lequel on a eu peu d'occasion d'évaluer l'efficacité de ces méthodes-là qui étaient tellement nécessaires pendant la COVID-19. Madame Guylaine Leclerc, vérificatrice générale du Québec, merci beaucoup d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Vous écoutez
Alexandre Morin-Ville-Ouellet.
Cube Radio.
L'Omnium Banque Nationale a beau être terminé ici à Montréal, ça n'empêche pas Mathieu Boulay, notre journaliste et chroniqueur sportif, de suivre les histoires de tennis qui se passent ailleurs. Et cette fois-ci, Mathieu, on s'en va à Cincinnati.
Hey, oui. Hey, Alexandre, bonjour.
Bon matin.
Il y a eu une histoire un peu troublante qui a été révélée par un journaliste britannique que je connais bien, Ben Rutherberg, qui a mentionné hier. Il est arrivé un incident à Cincinnati impliquant une partisane ukrainienne et des joueuses russes. La partisane ukrainienne s'est pointée dans les estrades avec une couronne, tu sais, la couronne un peu traditionnelle des Ukrainiens avec des fleurs et tout ça, et ouais. Un énorme drapeau ukrainien assis dans les estrades pour regarder les Russes, les deux joueuses russes qui étaient en double. Et là, les deux joueuses qui ont été voir, elles faisaient juste être là. Et là, les deux joueuses russes sont présentées à l'arbitre, ils ont été faire une plainte. On veut pas l'avoir dans les estrades. Là, l'arbitre a descendu, a été voir la madame. La madame, elle s'est fait Lola, puis Lola, elle faisait rien. Sérieusement, elle criait pas contre les Russes, elle faisait juste être là. Mais ça dérangeait les deux Russes. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le directeur de la sécurité du tournoi s'est approché, il a demandé à Lola de quitter le terrain. Et il a demandé par la suite de quitter l'enceinte du tournoi de Cincinnati. Pourquoi? Parce que le drapeau ukrainien était trop grand au goût du directeur de la sécurité. Ça a mis une aberration?
Je suis même pas sûr de comprendre le drapeau trop grand. Je veux bien, c'est quoi qui peut arriver comme danger?
Selon les règlements de la WTA, il y aurait un maximum de grandeur pour les drapeaux. Ça, là, c'est de la bouillie pour les chats.
Ben ouais, je veux bien. Puis je suis pas sûr que c'est parce que le drapeau était 3/4 de pouce trop grand que les deux joueuses russes sont allées se plaindre. Là. Ça m'étonnerait que ce soit ça la raison de leur plainte, on s'entend?
Ben oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment. Il était importuné parce que la fille faisait de la manifestation silencieuse, si tu veux. Puis là, l'arbitre a dit c'est pas bien de. Pas bien d'intimider les joueuses russes. Ben, il dit, ben, Lola, la seule affaire qu'elle a dit, ben, c'est pas bien non plus de faire une évasion dans mon pays. Fait que là, ça a viré un peu au drame politique. Et là, finalement, la pauvre Lola a été expulsée, mais ils ont dit, elle a dit après, si vous voulez revenir, vous gardez votre couronne, mais votre drapeau, vous le laissez dans votre auto. Fait qu'elle a pu continuer de suivre les matchs. Mais la pauvre, elle ne pensait pas créer un incident diplomatique.
Je peux pas croire.
Mais je pense que c'est juste normal dans les circonstances avec tous les dommages que la Russie a imposés à l'Ukraine.
Hey, moi, j'ai le droit d'aller à n'importe quel match de tennis avec n'importe quel drapeau. Là. Tu le sais, la semaine dernière, je suis allé à l'Omnium Banque Nationale. Il y avait des gens avec des drapeaux de pays de leur choix, des gens avec des drapeaux du Canada, du Québec. J'ai vu un drapeau de l'Écosse qu'Andy Murray jouait. On a le droit. Dans le drapeau, là, je comprends qu'il soit un peu trop grand, mais dans ce cas-ci, de le porter... Écoute, Mathieu, j'avais pas du tout entendu cette histoire-là. C'est complètement ridicule. C'est vraiment débile.
Exactement. C'est une aberration, mais c'est la première fois que tu dis, bon, on expulse des joueurs russes, des tournois, des événements. Ben là, ça, c'est... comment je fais ça? C'est normal. Je fais partie de toutes les mesures contre la Russie. Mais là, hier, là, moi, je trouvais ça un peu stupide. Quand j'ai vu cette histoire-là, hier soir, sur Twitter, je suis parti à rire parce que je dis, ben, on a atteint un autre niveau de stupidité.
Ben oui.
Et la pauvre Lola, elle a le droit d'exprimer, elle a le droit d'aller voir des Russes. Mais là, les Russes, les joueurs russes, je pensais pas, moi, que ça ferait un incident diplomatique. Les filles, les gars, sont sur le circuit, les différents circuits de tennis. Ils savent qu'est-ce qui se passe dans leur pays, puis ils savent qu'est-ce qui les horreurs que l'Ukraine a subi dans les derniers mois. Là.
Ouais, puis elle n'est pas en train de leur crier « Vous êtes des assassins, vous êtes des salauds, retournez chez vous. » Elle a le drapeau sur eux. Si les joueurs se sentent intimidés par un drapeau ukrainien dans les estrades, c'est qu'il y a un méchant problème et qu'ils ont quelque chose à se reprocher sur la conscience. Vraiment, Mathieu, ça me jette à terre. Comme histoire, ça me jette à terre. Écoute, avant que je pogne plus les nerfs, revenons sur une nouvelle beaucoup plus positive. Une nouvelle qui concerne le cerveau, le cerveau de Jonathan Huberdeau.
Oui, Jonathan Huberdeau a décidé de léguer son, de donner son cerveau à la science à la fin de sa carrière. Je ne sais pas combien de commotions cérébrales Jonathan Huberdeau a subi, mais je trouve qu'on va avoir de plus en plus de cas comme ceux-là. Les joueurs, les athlètes, là, sont pas fous, hein. Ils ont vu des étoiles au moins une fois dans leur carrière, quand t'es joueur de football, joueur de hockey, tous les sports de contact. T'es conscient qu'il va arriver, t'es conscient que tu auras des coups à la tête dans ta carrière. Et là, dans le cas de Jonathan Huberdeau, ben, il a décidé de faire une bonne œuvre, de léguer son cerveau à la science. Et sais-tu quoi? Peut-être qu'on va avoir des surprises. Parce que des fois, je suis correct. Puis là, les selles de manière quand t'es période, parfait. Mais là, je pense que Jonathan Huberdeau est peut-être conscient qu'il a peut-être subi des commotions cérébrales plus qu'on peut penser lors de sa carrière. Et là, il a décidé de faire ce mouvement-là. Et son cerveau va être légué à une université précise, là. Et ils vont pouvoir l'ausculter lorsque Jonathan Huberdeau va passer de l'autre côté.
Ouais, parce que, il pourra pas se faire étudier avant, là, si on s'entend, pour tous ceux qui étaient inquiets. Mais non, c'est tellement intéressant, puis on a de la difficulté, je pense, même encore aujourd'hui, à bien comprendre complètement les commotions cérébrales. Et là, en retraçant la carrière de Jonathan Huberdeau, en se disant, ouais, ce match-ci, là, subit tel coup, ce match-là subit tel coup, ça pourrait expliquer telle blessure. Moi, je trouve ça intéressant. Hein? Il reste quand même beaucoup d'années dans la vie de Jonathan Huberdeau, fait que c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir en profiter, mais tu fais bien d'en parler.
Je pense, Alexandre, là-dedans, là, je pense que des certains joueurs québécois de football, je te parle d'un Étienne Boulay, que ce soit Mathieu Proulx, devraient suivre cet exemple-là pour aider après leur vie, qui lèguent des connaissances sur les impacts des coups à la tête au football, notamment. Tu sais. J'aimerais ça que ces gars-là fassent la même chose. Les autres Québécois qui ont joué au football, joué au hockey, suivent la voie de Jonathan Huberdeau afin d'améliorer les connaissances sur ce drôle de malaise qui est ce drôle de malaise.
Mm-hmm. Ben oui, le drôle de malaise, puis surtout les commotions cérébrales, tu sais, on a des beaux sports qui exigent d'avoir des contacts physiques, là, c'est une facette du jeu. Mais est-ce que c'est dangereux pour la vie, la santé, la sécurité de nos athlètes? On veut que ça le soit le moins possible. Ça, c'est assez évident. Écoute, Mathieu, quelque chose que je suis pas beaucoup, je t'avoue, là. Puis j'ai essayé, là. Je regarde des extraits sur Twitter. Des fois, quand il y a un joueur qui est affilié à une équipe de la Ligue nationale, je suis un peu plus. Mais championnat du monde de hockey junior, tu m'avais averti que ça risquait d'être très peu suivi. Mais finalement, ta prédiction est vraie.
Ben, en fait, moi, on s'en parle le matin, là, mais c'est la première fois qu'on en parle depuis le début du tournoi. Là, on est rendu dans les phases éliminatoires. Et là, je me suis dit, pourquoi on en parle? T'sais, je veux dire, moi, avec tout ce qui est passé avec Hockey Canada, qui est loin d'avoir fait le ménage dans sa baraque, depuis quelques semaines, quelques mois, ils ont été tellement trempés dans tellement de controverses. Puis là, ils présentent un tournoi pendant deux semaines, pendant l'été. Mon intérêt, moi, il est nul.
Ouais.
Par rapport à tout ce qui est arrivé cet été, ça n'a rien à voir avec l'équipe, là. Les jeunes qui sont là, ils méritent de la visibilité, ils méritent qu'on souligne leur exploit s'ils remportent la médaille d'or. Mais là, l'intérêt des gens, en plein milieu de l'été, c'est nul. Parce que c'est un tournoi qui a lieu pendant les fêtes. Et pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mange, on boit, puis on écoute le hockey junior. Habituellement, c'est les trois facettes clés d'une vie d'un amateur de sport pendant les fêtes. Et là, ben, dans ce cas-là, moi, je suis pas venu te dire que je regarde ça un peu du coin de l'œil, mais mon intérêt est nul. Et l'aréna à Edmonton, l'aréna des Oilers à Edmonton, est vide, pratiquement vide. En temps normal, cette aréna-là aurait été plein à craquer, puis ça aurait crié, puis tout ça. Est-ce que ce sont les gens qui ont un manque d'intérêt avant le tournoi parce que c'est au mois d'août? Ou c'est parce que simplement le scandale de Hockey Canada a éclaboussé pas mal plus qu'on peut penser?
Ben, il y a quand même, ouais. Je suis d'accord avec toi, puis surtout, qui veut, quand il fait beau soleil, il fait chaud, il fait beau dehors, qui veut rester en dedans à écouter la télé au lieu d'aller prendre un verre sur une terrasse? Moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Par contre, pour les amateurs de hockey pur et dur, ça vaut la peine de le souligner quand même, Mathieu. Il y a certains petits bijoux à voir pendant ce championnat de hockey-là. Puis entre autres, je pense qu'il y a beaucoup d'yeux qui sont sur Connor Bedard, hein, en ce moment, le futur super vedette de la Ligue nationale.
Non, mais c'est tellement un beau joueur. Là. Tout le monde parle de Valtteri Bédard déjà. La saison de hockey de la Ligue nationale n'est même pas commencée encore.
Oui, ben cette saison de repêchage, on savait pas trop qui allait être le premier choix repêché par les Canadiens, mais on peut se dire que l'an prochain, c'est pas mal plus certain c'est qui le premier qui sort?
Ah oui, c'est ça, puis c'est un joueur tellement électrisant, là. Moi, j'ai vu jouer quelques fois l'année passée. J'ai pas vraiment juste joué cet été, mais ce gars-là a des mains extraordinaires. Il a des mains, il a un sens de hockey, il a toutes les attributs pour avoir du succès à une salle de hockey. Il me fait penser à Sidney Crosby à son âge.
Wow.
Sidney Crosby, là, il était dominant comme ça quand il jouait junior. Puis lui, là, ça roulait à sa façon sur la patinoire. Il dirigeait la circulation, Sidney Crosby, comme il voulait. Il faisait ça à sa façon, puis c'était extraordinaire de le voir. La scène de Rimouski, quand il l'avait à Rimouski, là, Sidney Crosby, là, c'était extraordinaire parce que il dominait tellement sur la patinoire qu'il a permis à des joueurs comme Marc-Antoine Pouliot et Danny Roussy d'avoir des carrières chez les professionnels. Parce que ce gars-là était tellement dominant qu'il distribuait la rondelle à ses deux alliés. Et Danny Roussin, je pense, a marqué soit 50-60 buts dans une année. C'est ça qui a permis aux Panthers de la Floride de repêcher Danny Roussin. Alors, tu vois que des gars comme ça, là, t'as envoyé une fois ou 10 ans, des dominants comme ça, des Connor McDavid, des Sidney Crosby, et peut-être qu'un Connor Bedard, est-ce que Connor Bedard va être aussi dominant que Sidney Crosby puis Connor McDavid? Là, pour le moment, je te dirais que c'est un peu prématuré de dire ça.
Ouais.
Mais malgré tout, je pense qu'il y a un super beau talent qui est en train de se développer chez le junior. Puis l'année prochaine, dans une salle de hockey, ben on va voir peut-être un super joueur éclat.
Ben là, s'il se met à pleuvoir, puis vous voulez pas le goût d'être sur une terrasse, ouvrez le hockey, ça va être un peu dans une période plate. Ça vaut la peine quand même juste pour voir ce joueur-là jouer. Mathieu Boulay, merci d'avoir été là. On se reparle demain.
Merci, à demain.
Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Ville-Ouellet. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Rémi Villemur, Julia Pagé, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de nous mettre sur un sujet assez costaud, merci, assez controversé, je voulais avoir votre avis parce que ce matin, on rapporte là, du côté de l'agence QMI que l'Assemblée nationale projette de peut-être amener des changements au Salon Bleu, hein, au Parlement, la base, le centre de notre démocratie. Des changements qui font pas nécessairement l'unanimité. En ce moment, pour ceux qui ont jamais vu le Salon Bleu, on a d'un côté le gouvernement, de l'autre côté les oppositions. Ça se fait face d'un côté comme de l'autre et on a à l'autre bout complètement le président de l'Assemblée nationale. Et là, on parle de peut-être faire un hémicycle ou encore un fer à cheval, comme une espèce de gros U. Ça ressemblerait au modèle français, modèle écossais aussi. Rémi, toi, ça te parle, ça, ce modèle-là?
Pas vraiment, en fait. Puis, je pense pas que c'est un petit sujet non plus. C'est quelque chose qui est arrivé ce matin un peu au milieu de nulle part. Mais il va falloir, dans les prochaines semaines, se poser la question à savoir si c'est une bonne idée d'aller de l'avant avec cette réforme-là. Généralement, l'hémicycle, qui est la disposition en demi-cercle, c'est utilisé dans des assemblées où s'expriment plusieurs courants politiques, où il y a aussi le multipartisme. Donc, on pourrait penser que c'est le cas au Québec. Hein? Il y a plusieurs courants politiques et il y a le multipartisme. Sauf que on a un mode de scrutin qui est majoritaire à un tour. Donc, en fait, dans les faits, là, le Québec n'est pas vraiment traversé par le multipartisme, puis les oppositions ont moins de pouvoir au Québec qu'ailleurs dans le monde. Donc, moi, je trouve que la disposition actuelle est la plus appropriée. Et il y a un autre point aussi, je pense, qui est très important, c'est concernant bon, les principes que voudrait défendre cette réforme-là. Donc, on a parlé de culture de collaboration, d'optimisation des échanges. Moi, je trouve que ça va déjà très bien à ce niveau-là. Faut pas s'imaginer que la CAQ ne collabore pas déjà avec le Parti libéral, avec le Parti québécois et avec Québec solidaire. Là. Quiconque connaît la politique québécoise sait qu'il y a des travaux en commission parlementaire, en sous-commission aussi. Donc moi, j'ai bien peur que cette réforme-là, elle veuille plutôt nous éloigner des derniers relents de la dynamique d'affrontement qui est essentielle en politique. T'sais, en société, on remarque, on en a déjà parlé cet été, les débats, c'est plus aussi évident que ce l'était avant. Quand deux personnes ne sont pas d'accord dans une pièce, il y a comme un malaise qui s'exprime. Et moi, j'espère seulement que ce malaise-là n'existera jamais à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'on devrait demeurer avec cette disposition-là. Pour la petite histoire, je parlais ce matin avec Pierre Norris, qui est un étudiant en sciences politiques que j'admire, puis il me disait que la distance entre les premières rangées à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, ce sont deux épées, en fait. Donc, on a voulu faire en sorte que ce soit jamais possible d'affronter littéralement son adversaire physiquement en avant. Donc, la démocratie est en santé.
Deux épées, je connaissais pas cette histoire-là. Julia, toi, t'es-tu plus face à face, fer à cheval, hémicycle? Tu penches de quel côté?
Bien, moi, je trouve que les raisons évoquées pour opérer ce changement de disposition au Salon Bleu me semblent assez raisonnables, surtout quand on parle de possibilité d'ajouter des députés, ce qui est vraiment très heureux d'un point de vue démocratique, là. Ce serait plus représentatif de la population qui est en augmentation et la disposition actuelle ne le permet pas. Après, pour la question de choisir une disposition qui favorise le débat, la discussion, j'avoue que dans un système qui est un système bipartisan, ça a moins sa place, du moins ça nous semble pas aussi nécessaire, aussi évident. Je pense que beaucoup de députés s'entendent pour dire qu'il y a une place à l'amélioration, mais ce sur quoi tous ne s'entendent pas, c'est la nécessité, la nécessité primaire là, de faire la chose. L'Assemblée nationale, c'est un gros bateau. Faut qu'il soit dirigé comme tel. On peut pas faire des changements brusques, faire table rase, tout reconstruire. Et c'est un organe vital de la province. Alors, il faut vraiment s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art et ben, que la démocratie demeure intacte là, à travers tout le processus.
Parce que, comme tu le dis, c'est tellement, tellement important, même rajouter des sièges. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Là, on parle de changements qui seraient faits d'ici 2026. On va quand même avoir une petite marge de manœuvre pour parler de ce sujet-là. Il y a même le temps d'y avoir un autre gouvernement, littéralement ou presque, là, qui embarque dans d'autres élections plus loin alors qu'on n'a même pas commencé celle-ci. C'est pas tout de suite, mais c'est sûr que c'est un dossier qu'il faut absolument fouiller. Gros dossier qui est dans l'air depuis un moment, mais qui revient quand même encore parce que ça commence bientôt, hein, la Coupe du monde de soccer, de football pour nos cousins européens, qui commence bientôt au Qatar, hein, ça. Et là, il y a des gens qui commencent à parler de boycott. Il y a un ex-footballeur allemand, entre autres, là, Philipp Lahm, qui lui a décidé de se retirer, a dit qu'il n'irait même pas comme spectateur là-bas pour assister à la Coupe du Monde, mais c'est pas pour rien. On parle là de violations épouvantables des droits de l'homme qui auraient pu se produire là-bas, au Qatar, entre autres, dans le chantier de travail pour construire l'énorme stade qui va accueillir les équipes. Julia, toi, est-ce que tu crois que c'est un événement qui devrait être boycotté?
Ben, pour moi, d'abord, c'est juste insensé que le Qatar ait eu le droit d'accueillir la FIFA. D'ailleurs, il y a certains membres du comité exécutif de la FIFA, donc ceux-là même qui ont pris cette décision, qui sont aujourd'hui d'accord avec moi. Il y en a beaucoup de problèmes au Qatar, là, dont le fait que l'homosexualité est passible de 7 ans de prison. Petit détail.
Ouais.
Mais ce qui est encore plus fou, c'est effectivement tous ces problèmes concernant le traitement des migrants, que certains qualifient à juste titre d'esclavage moderne. Il y a plusieurs décennies de ça, le Qatar a mis en place le système kafala, qui fonctionne comme un genre de système de parrainage entre les migrants et leur employeur. Donc, en gros, entre les migrants et la compagnie pour laquelle ils travaillent. En théorie, c'est pour les intégrer au monde du travail, mais en pratique, c'est un enfer d'abus et de violations des droits humains cautionnés par le gouvernement. Les lois du système kafala commencent à changer suite à des pressions majeures qui ont été exercées sur le pays en vue de la Coupe du Monde. Mais jusqu'à très récemment, les migrants ne pouvaient pas quitter le pays ou changer d'emploi sans l'accord de leur employeur. Pensez-y là. Ici, si notre employeur nous force à travailler des heures impossibles, nous empêche de prendre congé pendant des mois, ne nous paye pas ou nous paye des mois en retard, ben on change d'emploi, on poursuit notre employeur. Mais au Qatar, tout ça était monnaie courante, disons-le, ça l'est encore, et le gouvernement était dans le coup. Là, le système kafala est amené à changer, mais il est tellement profondément enraciné dans la culture du pays que les changements qui ont été faits pour améliorer la condition des migrants sont vraiment minimes. Et les migrants sont encore à la merci de leur employeur, ce qui fait dire à plusieurs que c'est un système qui s'apparente à l'esclavage, où l'employeur devient littéralement maître de ses employés dans presque toutes les sphères de leur vie. Et là, la cerise sur le sundae, c'est que ces employés maltraités, ces migrants qui meurent en masse à cause des conditions de travail épouvantables, ce sont ceux-là même qui construisent les stades, qui conduisent les taxis, qui nettoient les hôtels où les joueurs vont loger. Donc, sans eux, il n'y en a pas de Coupe du Monde. Et là, les joueurs de foot millionnaires, milliardaires, que sais-je, vont profiter d'infrastructures pour lesquelles plus de 6500 migrants sont décédés à cause de conditions de travail inhumaines. Est-ce que c'est ça le prix du divertissement? J'espère pas. Et je pense qu'il faut vraiment commencer à se poser des questions sur nos priorités.
Tu dis commencer à se poser des questions, mais pour ce qui est du sport, pour ce qui est des événements comme ça, controversés, on dirait que la question revient à chaque fois. Il y a eu des Jeux olympiques en Chine, très récemment, je le rappelle, où c'est encore une fois une société, un gouvernement qui met des gens, des millions de personnes dans des camps de concentration. On est allé quand même. Puis Rémi, toi qui aimes l'histoire, on peut remonter. Jeux olympiques de Berlin, 1936, organisé par Adolf Hitler lui-même. Les pays du monde entier qui se rassemblent là sous le signe du nazisme, sous le signe de l'antisémitisme. Il y en a eu des Jeux olympiques quand même. Est-ce qu'il est trop tard pour faire marche arrière? Est-ce qu'on peut encore faire des examens de conscience sur les événements sportifs quand ils sont organisés par des dictatures, des tyrannies qui violent les droits humains, Rémi?
Ben, je pense que l'enjeu ici, si on prend par exemple le cas de la Coupe du Monde, jusqu'à relativement tout récemment, là, la Coupe du Monde se tenait dans des pays qui sont plutôt riches, des pays qui appartiennent aujourd'hui au G20, là, donc l'Italie, la France, l'Angleterre, c'est déjà allé au Japon aussi. Et là, depuis quelques années, on veut démocratiser le soccer, parce que le soccer, moi j'appelle ça soccer, ça appartient à tout le monde, ça, c'est pratiqué dans tous les pays du monde. Et là, on se dit, écoute, les Africains ont le droit à la Coupe du Monde, les Qataris ont le droit à la Coupe du Monde. Et là, on arrive dans des pays où il y a effectivement ces enjeux-là, qu'on n'a pas en Italie, qu'on n'a pas en France, ou en tout cas, on les a pas à ce niveau-là, ça c'est certain. Je regarde aussi Philippe Lahm, qui en 2014 était le capitaine de l'équipe allemande et qui s'est rendu au Brésil pour jouer la Coupe du Monde. Ils ont gagné face au Brésil en finale. Le Brésil avait il y avait de sérieux enjeux là, de respect des droits humains aussi à l'époque. Donc, je trouve que son courage est un peu opportun maintenant qu'il n'est plus joueur de soccer, maintenant qu'il n'est plus capitaine. Peut-être qu'il a été illuminé tout récemment, mais j'en doute. Et moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que les joueurs ne boycotteront pas cette compétition-là. C'est l'équivalent de la Coupe Stanley. C'est même plus important que ça pour eux. Donc, je trouve que c'est évident qu'il faut en parler, c'est évident qu'il faut en discuter. Ce que Julia vient de nous expliquer, c'est frappant, ça n'a aucun bon sens. Mais la FIFA va devoir se demander si à l'avenir, ils ne doivent pas revenir dans des pays où il y a moins d'enjeux de respect des droits de l'homme. En 2026, ils viennent au Canada. Où ça va se passer en 2030, ça reste à voir.
Ouais, pis c'est des bonnes questions, puis je pense qu'on ne demande pas aux joueurs, aux joueuses de boycotter la Coupe du Monde non plus. C'est pas eux que ça concerne, mais c'est plutôt de l'organisation de la chose, hein, puis même là, on va prêcher pour la paroisse. Le Canada est qualifié pour la Coupe du Monde pour une des très, 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 très rares fois dans l'histoire. Ça vaut la peine d'aller les voir jouer, on veut surtout pas leur enlever ce privilège-là. Mais quelque part, les questions, on dirait que quand le sport embarque, le divertissement, Julia, puis je te laisse le mot de la fin, est-ce qu'on se dit que tout est permis quand il est question de divertissement? Est-ce qu'on devrait laisser ce passe-droit-là au sport?
Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on parle de la FIFA, ou comme on a parlé de Hockey Canada, ou comme on a parlé de certaines stars du divertissement, comme si leur droit à la célébrité, au divertissement, aux grandes foules, dépassait les droits humains. Mais là, au Qatar, on parle de droits humains de base, le droit de se déplacer, le droit de vivre, le droit de changer d'emploi. Et quand on, disons, si on n'a pas de contexte culturel de l'importance du soccer, on se dit, bon voilà, là je dis soccer, on se dit, ben une vie humaine, un match de soccer, mais il y a pas de comparaison. Mais l'importance culturelle des sports et l'importance qu'on leur accorde permet ça. Et moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Après, Go Canada, d'après moi, on va gagner. mais c'est vraiment... il faut faire attention. Il faut faire attention de remettre les choses en perspective. Et même si l'importance culturelle du soccer est forte, on parle de vie humaine, là. Alors, revenons à la base.
Ouais, revenons à la base, sauf que... disons que la vie humaine n'a peut-être pas la même valeur partout où on va aller faire nos matchs de soccer. Malheureusement, là, c'est moi qui viens vous rejoindre dans votre bateau, Rémi Julia. Merci pour tout ça. On reprend la discussion demain.
Alexandre Morin-Villouellet, journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité.
Même si on apprend que l'inflation ralentit ce mois-ci, là, c'est ce qu'on a appris dans les dernières heures, là, ça ralentit un peu au Canada. C'est toujours très, très présent. Et un des endroits où ça se remarque le plus, évidemment, pour les foyers québécois, c'est au niveau de l'épicerie. Et il y a une étude assez intéressante, merci, qui transparaît aujourd'hui. Une étude du magazine Protégez-vous. Sa porte-parole, Marie-Noël Lajoie, est avec nous. Bonjour, Madame Lajoie.
Bonjour Alexandre.
Mais là, tout d'abord, là, vous avez fait une étude qui parle des prix, hein, des prix à l'inflation, mais vous avez comparé entre les diverses marques d'épicerie ici au Québec et dépendamment de l'enseigne, ben, il y a une différence majeure en termes de prix qu'on peut avoir si on reste à une enseigne et qu'on y fait notre épicerie. C'est plus de 2000 $ par an. Expliquez-nous qui sont les champions et qui sont les cancres de ces prix à l'épicerie.
Ben d'abord, allons-y avec les champions, hein, parce que c'est eux qui remportent le haut du podium. Super C d'abord, qui se démarque si on s'en tient qu'aux marques les plus économiques, donc les marques maison la plupart du temps. Si vous optez pour les marques maison et les rabais chez Super C, vous allez payer votre panier d'épicerie en moyenne 201 $. Ça, c'est 17 % moins cher que chez la bannière la plus chère qui est IGA Extra.
Wow.
C'est là qu'on va trouver les fruits, les légumes et les viandes à moindre coût. Si on va faire un tour du côté chez Walmart, là, on s'y juste vraiment du côté des marques nationales, donc les Lactantia de ce monde, les Liberté pour les yogourts, entre autres, les Heinz. Le panier de Walmart coûte 242 $ en moyenne, 15 % moins cher qu'au Métro Plus.
Quand même, hein, c'est des différences qui sont assez majeures. Merci. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui explique ces différences de prix-là? Est-ce qu'on parle vraiment uniquement du fait que des produits locaux, des produits internationaux? Qu'est-ce qui fait une différence majeure?
Ben, le pouvoir d'achat, d'abord, de Walmart, qui fait une grosse différence. Si on remarque, c'est super facile, pour ceux qui sont des habitués, vous savez que c'est vous qui emballez votre épicerie vous-même. Que dans ces bannières-là, Super C, Walmart, Maxi, il n'y a pas de comptoir de boucherie. On prend des viandes déjà préemballées. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe au maximum dans les dépenses. Ces bannières à bas prix-là qui économisent sur vraiment tout et ça dévaille aussi le nombre d'employés sur le plancher.
Là, il y a plusieurs, il y a diverses enseignes qui ont leurs forces, leurs faiblesses, vous le dites, mais vous déconseillez dans votre étude de passer d'une à l'autre. On pourrait être tenté là, d'aller chercher sa viande quelque part, d'aller chercher ses céréales à un autre endroit, mais ça, oui. C'est pas une option qui est très bonne selon vous.
Ben, en fait, c'est que ça vaut pas vraiment le coup. On a fait le test et par exemple, par rapport au panier économique de Super C de 201 $, si on se promène un peu partout pour essayer de sauver des sous, ça nous aurait permis d'épargner tout au plus 5 $ au maximum. Alors, vaut mieux donc miser sur un seul supermarché en fonction des rabais de la semaine.
Là, il y a de plus en plus de gens, selon les études qui sont menées, qui choisissent ces marques économiques-là. C'est certain que la publication de votre rapport va peut-être aider davantage à ce phénomène-là. Est-ce qu'on risque de voir, si on veut, du côté des marques plus onéreuses, des bannières qui affichent des prix plus élevés, est-ce qu'ils risquent de suivre la parade pour tenter d'attirer de la clientèle, eux aussi, de leur côté? Est-ce qu'on peut voir une augmentation du côté des marques sans nom, par exemple?
Ben probablement pour le moment, parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est le fameux phénomène de la réduflation, c'est-à-dire que les marques nationales particulièrement n'ont pas changé le prix de leurs produits, mais ils en ont changé le volume. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on en met moins pour le même prix, puis on change pas l'emballage, donc les gens s'y méprennent un petit peu. Et ce phénomène-là commence à débouler sur les marques économiques. De plus en plus, on le voit arriver. Donc, je pense que la meilleure façon d'économiser, c'est d'abord et avant tout de planifier, surtout avec la rentrée qui s'en vient. Prenez le temps de regarder vos circulaires, de prévoir vos repas, les lunchs de la semaine. On fait ça en fonction des rabais. Optez pour les produits de marque maison lorsque c'est nécessaire, mais comparez aussi les prix au poids. C'est affiché souvent en tout petit, les petits. Il faut prendre le temps de lire, de s'habituer à ça, de faire l'exercice le plus souvent possible. Évitez d'acheter des aliments déjà préparés, transformés. Les légumes précoupés, c'est bien pratique, mais en bout de ligne, vous n'allez pas économiser beaucoup là-dessus. C'est toujours mieux de le faire soi-même.
Ça m'intéresse beaucoup ce que vous parlez là, quand, du côté de la réduflation, qui n'est pas un phénomène que je connaissais, mais qui est observable. On prend des produits, donc, de ce que je comprends, qu'on a toujours eu, mais on réduit le volume un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des produits particuliers sur lesquels on devrait porter une attention plus soutenue, si on veut? Parce que moi, je suis pas quelqu'un de très observateur. Ça se pourrait que je n'ai pas remarqué que ma brique de fromage a réduit de volume un tout petit peu. Est-ce qu'il y en a des produits comme ça desquels il faut se méfier, selon vous?
Faire attention. Entre autres, les briques de fromage, souvent, on fait toujours la même chose. On se dit, bon, le prix n'a pas changé, je prends cette brique-là, tout ça. On est passé quand même de 460 grammes à 400 grammes.
Ouais, c'est significatif.
Pour le même prix, c'est 2% environ.
Ouais. C'est sûr, c'est quand même marqué. Y a-t-il d'autres produits à part le fromage sur lesquels ça s'observe beaucoup?
Le jus, entre autres, on a remarqué que le jus Tropicana est passé de 1,75 litres à 1,54 litres.
Quand même.
Donc là aussi, ça fait... Ben, c'est un jus d'orange de moins, là.
Ouais, c'est ça, c'est un verre de moins, puis c'est insidieux, puis ça, j'imagine, c'est légal là, pour les entreprises. Il n'y a rien qui protège le consommateur dans ces incidences-là.
Ben pour l'instant, je dirais que non, c'est tout à fait, effectivement, c'est tout à fait légal. Ils le font en toute impunité, puis il n'y a rien pour protéger le consommateur, à part le fait que le consommateur doit vraiment être averti de ces choses-là, doit prendre l'habitude de connaître vos produits. Vous le savez, vous achetez toujours la même chose, de toute façon, devenez un petit peu plus observateur. Là, c'est vous aussi, vous avez question en bout de ligne.
Mais il y a peut-être pas de loi pour nous protéger, mais il y a vous. Du côté du magazine Protégez-vous, qui nous envoie là, toujours des études intéressantes, informatives comme celle-ci. Marie-Noëlle Lajoie, porte-parole du magazine Protégez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci d'avoir pris le temps.
Au revoir. Donc, vous êtes mieux informés. Faites attention à cette réduflation pour vos produits de nourriture et ça vaut la peine de regarder les circulaires. Hein. Peut-être pas quelque chose qu'on fait à l'époque de l'Internet, là, mais en ligne quand même, ça vaut la peine de bien les magasiner. Je vous laisse sur une nouvelle internationale. Lundi, hier, les avocats de Rudy Giuliani, hein, l'avocat personnel de Donald Trump, l'ex-président américain, ont été informés que M. Giuliani allait être visé par une enquête criminelle en Géorgie pour l'ingérence électorale qui a été commise par Donald Trump et ses conseillers dans cet état-là. On se souviendra, il y a un appel qui a été enregistré où Donald Trump appelait le responsable des élections en Géorgie pour lui demander de trouver, entre gros guillemets, quelques milliers de votes pour lui permettre de remporter cette élection-là. C'était vraiment, vraiment assez inquiétant. Merci. Et là, il sera visé par une enquête criminelle. Mais ce qui est surtout intéressant dans tout ça, c'est que, c'est assez peu probable que l'avocat de Donald Trump ne soit visé par une enquête en Géorgie et que M. Trump lui-même ne le soit pas. Donc, à suivre, mais c'est encore une fois un symbole que l'ancien président est sur la sellette. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je remercie toute l'équipe avec moi, comme d'habitude. Jean-François Roy, Marianne Bessette à la recherche. Je vous dis à demain, 9h. Je vous laisse avec Alexandre Dubé.
Cube Radio.